Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, le podcast de la Fédération française de cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Dans cet épisode consacré à l'hypertension, nous allons vous aider non seulement à mieux comprendre son impact sur le cœur, mais nous vous partagerons surtout les bons réflexes pour la dépister et des conseils pour mieux maîtriser votre pression artérielle. Pour connaître votre niveau de risque cardiovasculaire, il existe un test qui est disponible sur le site de la Fédération française de cardiologie et ce test permet d'évaluer votre risque cardiovasculaire en fonction de vos habitudes de vie et de vos antécédents médicaux. Nous avons fait remplir ce test à quelques témoins, écoutez le résultat.
Alors, profil, vous êtes, je suis un homme, quel âge avez-vous ? Donc j'ai 55 ans.
Avez-vous un parent du premier degré qui a eu des problèmes cardiaques ? Non. Mon alimentation, étant donné que j'ai pas trop le temps, je pense que je mange vraiment moins de fruits et de légumes par semaine. Par contre, je ressale pas mes plats.
Les autres facteurs de risque ? Alors l'hypertension, bah non, j'en ai pas. Est-ce que je connais ma pression du coup ? Bah non, de tête, non.
Est-ce que je ressale les plats ? Bah non, j'aime pas trop quand c'est trop salé, donc je rajoute jamais de sel.
Est-ce que j'ai de l'hypertension ? Non. Je ne connais pas mon niveau de pression artérielle. Je connais pas mon taux de cholestérol.
Ressalez-vous vos plats ? Non, j'évite, bien sûr.
Oui, étant fumeur, j'ai le principe de ressaler vu qu'on perd du goût.
Alors, question 10, ressalez-vous vos plats ? Non, pas du tout.
Est-ce que je mange de la charcuterie et du fromage ? J'imagine un petit peu comme tout bon français, mais j'en abuse pas non plus.
Ma consommation d'alcool ? Buvez-vous plus de 2 verres par jour ? Non, plutôt 3-4 verres d'alcool par semaine maximum.
Mangez-vous régulièrement de la charcuterie et du fromage ? Alors, oui, c'est un peu mon péché mignon.
Avez-vous de l'hypertension ? Non.
Alors oui, apparemment j'ai de l'hypertension. On a découvert ça lors de la dernière visite médicale, qui était plutôt banale. Donc oui, j'ai de l'hypertension.
Et je reçois maintenant le professeur Alain Furbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue, alors vous avez entendu un petit peu tous nos témoins. Peu de gens ont une hypertension artérielle finalement, en tout cas dans les témoins qu'on a entendus.
Oui, alors ça c'est des témoignages qui sont vraiment très intéressants parce que ça pose d'emblée le problème du dépistage de l'hypertension artérielle puisque les gens disent ne pas avoir une hypertension mais n'ont jamais eu de test de dépistage, de mesure de la pression artérielle.
Alors cette hypertension artérielle d'abord, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'hypertension artérielle, hein, sur le plan physiologique, hein, c'est une augmentation de pression qui devient trop forte dans les artères. Et cette augmentation de pression devient progressivement permanente et va induire des anomalies. Le cœur va se fatiguer et à plus ou moins long terme, il va y avoir des créations d'anomalies, de lésions au niveau des artères et toutes les artères du cœur, en particulier l'apparition d'athérosclérose, donc des dépôts de cholestérol dans les parois des artères. L'hypertension, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et puis, à plus long terme, les complications, la survenue d'un infarctus, d'un accident vasculaire cérébral et bien d'autres complications.
C'est la pression du sang, en fait, dans les artères.
C'est la pression. On parle d'hypertension artérielle. Dès que la pression artérielle systolique est supérieure à 140 mm de mercure ou que la pression artérielle diastolique est supérieure à 90 mm de mercure. C'est la définition de l'hypertension. Cette définition ne se contente pas d'une seule mesure, parce qu'une mesure dans un cabinet médical peut être très variable.
Il peut y avoir le phénomène de la blouse blanche, quoi, de la peur de l'examen.
Le stress, l'émotivité, et donc il faut le confirmer. Pour le confirmer, on a d'une part la possibilité de faire un enregistrement sur 24 heures qu'on appelle la MAPA, qui veut dire mesure ambulatoire de la pression artérielle, et autrement de faire de l'auto-mesure avec des appareils électroniques. Ça nécessite simplement un apprentissage pour les patients.
Et les patients utilisent un matériel qu'ils peuvent trouver en pharmacie. Alors, elle peut arriver comment, cette hypertension artérielle ?
Alors l'hypertension artérielle, la plupart du temps, est asymptomatique. C'est vraiment ce qu'on appelle le tueur silencieux.
On ne s'en aperçoit pas.
Il n'y a pas de symptômes, on ne s'en aperçoit pas. Donc d'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, d'un dépistage à un moment donné. Et je pense que le seuil de dépistage systématique à 40 ans est un bon seuil à retenir.
C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, quoi qu'il se passe, on va se faire dépister.
Voilà, ça c'est prudent. Puis après, il y a des gens plus à risque, des gens dont il y a une notion d'hérédité. hein, les parents sont hypertendus, ben, on ira peut-être un peu plus tôt. Et puis s'il y a des symptômes, les symptômes ne sont pas très fréquents, mais on peut avoir des symptômes, voire déjà des complications comme l'insuffisance cardiaque, autre, on en parlera.
Les symptômes, ça peut être quoi?
Alors les symptômes, ça peut être des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête, des petits étourdissements, des choses comme ça. Donc ce ne sont pas des symptômes très évocateurs, hein, mais devant ces petits symptômes, ben, il faut prendre la pression artérielle.
Qu'est-ce qui peut amener à l'hypertension artérielle? Qu'est-ce qui peut être la cause?
Les causes, dans notre démarche, une fois qu'on a confirmé le diagnostic donc d'hypertension artérielle, on essaye d'éliminer certaines maladies hein, qui peuvent entraîner une hypertension artérielle, qui ont l'intérêt d'être, une fois la maladie traitée, l'hypertension peut disparaître. Donc c'est rare, hein, c'est à peu près 5% des causes d'hypertension artérielle. Ce sont les maladies rénales, donc l'insuffisance rénale, ça peut être des rétrécissements au niveau des artères rénales, certaines maladies endocriniennes qui peuvent entraîner des sécrétions anormales d'hormones. Et puis, on cherche toujours, et ça c'est de plus en plus fréquent, le syndrome d'apnée du sommeil, donc qui se manifeste par des troubles du sommeil, le fait d'être fatigué au réveil, d'avoir des somnolences la journée, de ronfler la nuit. Et il y a des tests qui permettent de faire le diagnostic. Et c'est une cause connue et importante d'hypertension artérielle, mais c'est aussi une cause de difficulté d'équilibrer une hypertension artérielle, même si ce n'est pas que la cause unique.
Il y a aussi certains médicaments, certaines prises de produits toxiques qui peuvent entraîner.
Le plus connu hein, sont les contraceptifs oraux. Hein, donc, il y a toujours une prise de tension ou la prescription d'un contraceptif. Surtout les œstroprogestatifs hein, qui peuvent entraîner ça. Mais des médicaments, et notamment des médicaments qui sont en auto-prescription, hein, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, c'est parfois difficile parce que les patients ne nous disent pas qu'ils prennent ces médicaments. Bon, les corticoïdes, on le sait un peu plus. Et puis, il y a des produits toxiques, hein, comme la cocaïne, les amphétamines, qui peuvent entraîner aussi, par leur effet de vasoconstriction, de resserrement des artères, des hypertensions.
Est-ce qu'il y a des facteurs bah, qui peuvent être favorisants et qu'on peut éviter assez facilement?
Alors ça, c'est effectivement, il y en a beaucoup. C'est effectivement quelque chose d'important dans notre démarche, puisque dans certains cas, en prenant en charge ces facteurs favorisants, bah, on fait disparaître l'hypertension. Donc le surpoids, hein, c'est un facteur avec l'apparition de l'obésité, l'épidémie de l'obésité, hein, on en voit de plus en plus. La consommation excessive de sel, le sel entraîne une rétention d'eau et de sel, qu'on appelle la rétention hydrosodée, et peut déclencher ou aggraver une hypertension artérielle. La consommation excessive d'alcool, donc ça c'est vraiment trois points. Puis ensuite, le manque d'activité physique, ça joue sur les chiffres tensionnels, le stress qui va jouer également. Et puis, certaines situations qui vont entraîner à la fois une consommation excessive d'alcool, peu d'activité physique, une obésité, c'est l'isolement social.
L'isolement social, le fait de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir
Oui. Les gens sont plus en surpoids, mangent moins bien, font pas d'activité physique, sont stressés. Et globalement, bien, cet isolement social est vraiment maintenant considéré comme un facteur de risque, alors qui est associé à d'autres facteurs, hein, mais qu'il faut prendre en compte.
Ça veut dire que ça, vous en discutez avec vos patients?
Oui, c'est important. C'est important d'une part bah, pour rechercher ce facteur favorisant, mais on sait aussi qu'une fois que les patients seront diagnostiqués et traités, ben, ils prennent moins bien leurs médicaments. Il y a un problème d'observance. Parfois, ben, il y a des problèmes d'argent, donc ils ne vont pas à la pharmacie chercher les médicaments ou autre, quoi.
Il y a des facteurs bah, qui ne sont pas évitables et qui augmentent le risque d'hypertension artérielle. Plus on vieillit et plus on est à risque. Vous avez dit qu'il fallait commencer à 40 ans à se faire dépister.
Oui, bah, en fait, une fois qu'on a regardé tous ces éléments, bien, l'âge, hein, c'est un facteur majeur hein, d'apparition progressive de l'hypertension artérielle. Bah, avec l'âge, les artères deviennent plus rigides, ce qu'on appelle la compliance qui diminue. Donc ça, c'est une première chose. L'hérédité, hein, on en a déjà un petit peu parlé, mais quand on a des parents qui sont hypertendus, bah, on a des chances d'être hypertendu. Et puis, la femme, hein, c'est aussi un élément important, puisqu'il y a certaines situations dans la vie de la femme. Donc on a vu déjà la contraception, la grossesse, et puis le passage à la ménopause, qui sont des éléments où il faut dépister une hypertension qui peut apparaître à ces moments-là.
L'hypertension artérielle, quand elle n'est pas prise en charge, pas traitée, elle peut avoir des conséquences plutôt lourdes. Quelles sont les conséquences de l'hypertension artérielle?
Les conséquences, et c'est tout le problème de l'hypertension, c'est qu'elles apparaissent longtemps après le diagnostic. Il y a une première série qui sont liées à l'athérosclérose, donc les fameuses plaques d'athérome hein, qui se déposent dans les parois des artères. Ça va être l'infarctus du myocarde, mais dans la pathologie coronaire, ça peut être simplement de l'angine de poitrine, des douleurs dans la poitrine qui surviennent à l'effort. Ensuite, si ça touche les artères à visée cérébrale, ben les gens peuvent faire un accident vasculaire cérébral. Et ça existe aussi au niveau des jambes, hein, l'artériopathie des membres inférieurs, et avec des complications également possibles, d'ischémie aiguë, donc une artère de jambe qui se bouge brutalement, avec le risque d'amputation.
Donc et ça, on ne voit pas arriver.
Et ça, c'est au bout de 10-20 ans. Et puis, il y a des complications qu'on voit apparaître beaucoup plus tardivement, aux alentours de 30 ans. C'est les conséquences à long terme de l'hypertension artérielle, donc de l'insuffisance cardiaque, mais il y a également l'insuffisance rénale chronique, les démences, et les démences vasculaires et la maladie d'Alzheimer. Il y a une part clairement liée à l'hypertension artérielle. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il peut y avoir des troubles de la rétine. Donc, dans les formes sévères d'hypertension, on fait des fonds d'œil parce qu'on peut voir des anomalies et c'est un risque de cécité qui n'est pas négligeable dans les hypertensions sévères.
Pour éviter tout cela, parce qu'on le rappelle, vous l'avez dit, c'est le tueur silencieux, l'hypertension artérielle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout va bien, mais en fait, elle est tapie dans l'ombre et on ne la voit pas. Il y a des conseils d'hygiène de vie qui permettent de ralentir ce phénomène-là, de commencer à contrer un petit peu les choses, peut-être même d'annuler l'hypertension.
Oui, une fois que l'hypertension est confirmée, l'évaluation du risque cardiovasculaire nous permet de dire si le patient est à faible risque, à risque intermédiaire ou à haut risque. C'est tout l'objet du test qu'on a mis en place sur le site de la Fédération française de cardiologie. Et puis, à partir de là, soit le patient est vraiment à haut risque, on va démarrer d'emblée des médicaments, plus ces fameuses mesures hygiéno-diététiques, ces conseils. Et s'il est à faible risque, avec des tensions artérielles élevées, mais pas très élevées, moins de 160 mm de mercure, en gros, eh bien, ces conseils d'hygiène de vie seront les premiers à être mis en place et on peut supprimer l'hypertension. Alors, ces conseils, il y en a nombreux, c'est l'activité physique, pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique, au moins 5 fois par semaine. C'est l'alimentation, donc manger les 5 fruits et les légumes par jour, ça c'est important. Dans l'alimentation, on a vu que le sel était délétère, donc il faut, ça on, tout seul on a du mal, mais c'est pas plus de 6 grammes par jour. Avec votre médecin, éventuellement une diététicienne, on arrive à savoir à peu près quelle est la consommation. Si c'est plus difficile, on peut faire des dosages du sel dans les urines et savoir ce qu'on prend par jour. L'alcool, donc ça, diminuer la consommation, voire dans les hypertensions assez sévères, arrêter la consommation d'alcool. Ne pas fumer, ça c'est vraiment les points les plus importants. Et puis on a vu, il faut gérer son stress.
Et puis il y a des conseils un peu plus sympas, rire, manger du chocolat.
Rire, il y a des études qui ont clairement démontré ça, ça baisse les niveaux de pression artérielle, le rire entraîne la sécrétion d'endorphines, les endorphines vont lutter contre les hormones qui provoquent l'hypertension artérielle, et donc effectivement le rire est bénéfique. Et manger du chocolat noir, c'est quelque chose qu'on a montré, qui permet de diminuer ce risque cardiovasculaire.
On parle de personnes qui ont déjà été diagnostiquées, mais c'est aussi des outils de prévention.
C'est des conseils d'hygiène de vie et qui sont valables pour tout le monde. Qu'on ait un risque cardiovasculaire élevé ou faible, ça permet de diminuer le risque cardiovasculaire.
Et puis on le rappelle, une fois qu'elle est prise en charge, cette hypertension artérielle, elle peut être contrôlée et donc on baisse son risque cardiovasculaire.
Voilà, donc le traitement en lui-même, donc les conseils, on vient de les voir. La deuxième étape de la prise en charge du traitement, c'est dépister avec le test les facteurs de risque. Quand on a dépisté les facteurs de risque, quand il y a une hypercholestérolémie, il faut traiter cette hypercholestérolémie. Ça peut être d'abord des mesures alimentaires, mais après éventuellement des médicaments. Quand on a un diabète, dépistage d'un diabète, il va falloir traiter le diabète. Donc on traite les facteurs de risque et le fait de traiter les facteurs de risque va diminuer le risque cardiovasculaire global, en plus du traitement de l'hypertension. Et puis on a vu dans certaines situations, soit parce que l'hypertension est sévère d'emblée, soit parce qu'elle est modérée mais on n'arrive pas avec ces mesures d'hygiène de vie à la faire baisser, eh bien il y a des médicaments. Globalement, ce qu'il faut savoir, quand l'hypertension est modérée, on commence par un médicament. Quand elle est un peu plus sévère ou que le patient est à haut risque, on prendra d'emblée une bithérapie, donc deux médicaments dans le même comprimé. Donc trois axes, l'hygiène de vie pour tout le monde, mais c'est très important pour l'hypertendu, la prise en charge des facteurs de risque et le médicament si besoin.
Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre. Il faut se faire dépister de manière assez régulière, en tout cas arriver à 40 ans.
Oui, ça c'est le point essentiel parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand on regarde un petit peu les chiffres, bon je ne vais pas vous embêter avec plein de chiffres, mais globalement on sait qu'à peu près 30% des adultes français entre 18 et 74 ans, c'est une étude française qui est faite par Santé publique France, mais sont hypertendus, 30%. Là-dedans, il y en a 50% qui le savent, simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, ce fameux dépistage. Et puis ensuite, il faut avoir toute une phase d'éducation thérapeutique, puisqu'on a vu la stratégie avec les médicaments. Mais il faut que le patient participe, puisque s'il n'a pas compris le principe, il se porte bien, il n'a pas de symptômes, et on lui demande de prendre des médicaments à vie, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Alain Furbert, d'avoir partagé tout cela avec nous et d'avoir participé à cet épisode de podcast.
Merci beaucoup et puis allez sur le site de la Fédération française de cardiologie pour faire le test.
Et comme vous le dit le professeur Furbert, allez vous aussi remplir ce test sur le site de la Fédération française de cardiologie. Vous le verrez, c'est facile, c'est rapide, c'est anonyme et c'est gratuit. Et cela vous permet de calculer votre risque cardiovasculaire. Et puis vous verrez qu'en modifiant juste quelques critères sans avoir à tout refaire, vous vous apercevrez qu'en changeant quelques habitudes de vie, eh bien vous changez aussi votre risque cardiovasculaire. Je vous invite également à aller écouter ou réécouter le podcast Un cœur qui va, la vie qui bat sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site de la Fédération française de cardiologie, fedecardio.org. À bientôt.
Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.